Repenser l'eau à l'ère, la gestion de l'eau, hein, en bien commun, ou on pourrait dire en patrimoine commun, parce que c'est, on peut questionner, je commence la bataille sémantique, on peut questionner la notion de bien. À l'ère du changement climatique contient évidemment un enjeu de transition majeur, mais également un enjeu démocratique majeur. There is no planet B.
There is no planet blah. Blah, 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 blah. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, Copenhague.
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h.
L'eau publique, aqua publica. C'était le thème central des rencontres européennes de l'eau à Lyon les 4, 5 et 6 avril derniers. La personne que nous avons entendue ouvrir ces rencontres est Anne Gros-Perrin, élue écologiste à la métropole de Lyon, où elle assure la présidence de Eau du Grand Lyon. Le Grand Lyon étant le nom donné à cette métropole qui rassemble 58 communes et 1,5 million d'habitants. À Lyon, l'eau est un sujet de débat public depuis longtemps et l'association Eau Bien Commun Lyon Métropole, initiatrice de ces rencontres, fournit depuis des années une réflexion intense qui a inspiré la démarche de mise en place de la régie publique depuis 2020. On écoute Anne Gros-Perrin résumer les principes qui ont guidé cette construction.
Au-delà de la gestion publique, hein, la question de l'eau, en fait, la situation hydrologique de notre pays, en France, mais partout en Europe, hein, a placé ce sujet au cœur du débat public de manière assez récente. Depuis 2022, les médias se sont mis à parler de ce sujet de manière très importante, notamment en 2022, où il n'y avait pas de jour quasiment sans article de presse sur ce sujet-là. Et ça commençait généralement par des titres qui faisaient le buzz sur la guerre de l'eau, l'or bleu, etc. Cette bataille démocratique, c'est d'abord une bataille, en tout premier lieu, qu'il faut qu'on mène, qui est une bataille sémantique. Il faut refuser d'utiliser le mot « guerre de l'eau ». Il est à l'opposé d'une conception démocratique de la gestion du bien commun. Il faut refuser le terme « or bleu ». On pense tous à la ruée vers l'or. Hein. Ça veut dire qu'on considère que c'est une richesse. Même le mot « ressource » aujourd'hui induit une potentielle attitude extractiviste et donc une appropriation de la richesse par un certain nombre, une posture prédatrice comme les êtres humains ont coutume de l'avoir vis-à-vis de nos ressources naturelles. Même le mot partage pose un problème, parce que quand on utilise le mot partage, on utilise le mot partage entre les usages humains et on oublie bien souvent l'ensemble des écosystèmes. Moi j'ai entendu récemment quelqu'un dire « l'eau nous appartient ». Dans le combat que nous menons pour la gestion publique, nous le disons en tant que citoyens, nous disons « l'eau nous appartient », elle n'appartient pas à des sociétés privées. Or, il faut qu'on arrive, nous, à nous extraire de ce discours-là, parce que l'eau ne nous appartient pas. L'eau appartient à personne, elle est nos conditions de vie humaines, mais elle est également les conditions de vie de l'ensemble des écosystèmes qui nous font vivre. Donc il faut qu'on intègre ça maintenant aussi, nous, dans notre manière de voir les choses. C'est un sujet qui a été très technicisé dans un entre-soi des acteurs de l'eau, qui a contribué à éloigner les citoyens des enjeux politiques de la gestion de l'eau. Nous, en tant que citoyens, on avait très peu conscience du cycle de l'eau. Ça coulait à notre robinet, on ne se demandait pas trop d'où ça venait et on ne se demanderait pas trop où ça allait après. Aujourd'hui, effectivement, cette situation dans laquelle nous sommes, elle nous amène à penser ça autrement. Et il y a une nécessité vraiment importante de réappropriation citoyenne de ces enjeux, car ils ne sont pas techniques. Ils sont sociaux, ils sont économiques, ils sont écologiques. Ce sont des enjeux de droits humains, ce sont des enjeux de conditions de vie planétaires, mais ce ne sont pas des enjeux techniques. Donc tous ceux qui nous vendent de la technologie, ça a été évoqué également, pour faire face à ce qui nous attend dans les années à venir, c'est une illusion totale. La technologie ne nous sauvera pas. La technologie peut nous aider, parfois, mais elle ne nous sauvera pas. Donc il faut aussi qu'on mène cette bataille hein, sur le vocabulaire et sur la conception des choses. Juste un petit mot sur la gestion de l'eau en France. Hein, on est quand même toujours, ça s'est construit sur un référentiel extractiviste. Hein, il y a eu trois grandes lois en France, en 64, en 92 et en 2006. Et ces trois grandes lois, elles sont quand même toujours dans un référentiel extractiviste qui a gravé à l'échelle d'une organisation institutionnelle particulièrement dense, avec des grands bassins hydrographiques, des sous-bassins et des acteurs nombreux, ce référentiel-là. Et donc ce référentiel a une panoplie aménagiste, hein, qui s'appuie sur une conception de la ressource qui est destinée à des usages, comme je vous le disais, et non à un patrimoine commun vital. Donc il faut qu'on sorte hein, de cette forme d'entre-soi, puisque ce référentiel il a consolidé en fait cet entre-soi des acteurs de l'eau. Il a aussi joué un rôle très important dans les choix de mode de gestion, en France en particulier, qui ont été confiés à des sociétés privées, les élus disant « c'est un sujet technique, on ne sait pas faire, on remet à d'autres cette responsabilité ».
Cette réflexion présentée par Anne Gros-Perrin, présidente de la Régie de l'eau du Grand Lyon, a irrigué, le mot s'impose, partout en France ces dernières années. Entre 2008 et 2023, la part de la population desservie par une régie publique est passée de 38% à presque 50%, avec une nette accélération à partir de 2020 en raison du passage en gestion directe de collectivités importantes comme la métropole de Lyon, et bien sûr, celle de Bordeaux. Nous avons donc sollicité Sylvie Cassou-Scott, homologue d'Anne Gros-Perrin à la Régie de Bordeaux, pour faire le point sur la mise en place de cet établissement public, ses orientations et les choix tarifaires qui viennent d'être établis. Une régie qui vient de décider d'ailleurs, il y a quelques jours, d'intégrer la gestion de l'assainissement et des eaux pluviales.
Nous sommes en ligne avec Sylvie Cassou-Scott, adjointe au maire de Mérignac, vice-présidente de Bordeaux Métropole, déléguée à l'eau et à l'assainissement et présidente de la nouvelle régie de l'eau Bordeaux Métropole. Donc la gestion de l'eau par la régie de l'eau, ce sont 23 communes concernées, c'est-à-dire pratiquement toute la métropole, sauf quelques communes, Martignas, Ambarès, Bassas, Carbon-Blanc et Artigues, et 300 000 foyers raccordés, ce qui correspond à 40-45 millions de mètres cubes d'eau consommée. Alors, la métropole bordelaise a choisi, dès sa mise en place, de passer la gestion du service de l'eau sur la métropole en régie publique. Celle-ci est effective depuis début 2023. Est-ce que vous pourriez nous préciser, Sylvie Cassou-Scott, les enjeux de cette décision?
Bonjour. Oui, les enjeux de cette décision, c'était effectivement de considérer, de partir du principe que l'eau est un bien commun, un bien vital, essentiel, qui de nos jours se raréfie à cause du dérèglement climatique. Et il nous apparaissait évident, pertinent, indispensable de pouvoir reprendre la maîtrise de la gestion de l'eau et maintenant bientôt de l'assainissement dans une totale maîtrise de cette denrée, comme je le disais, qui se raréfie et qu'il faut protéger, qu'il faut préserver. L'eau n'étant pas un bien marchand.
Voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas bien marchand, mais en quoi la régie est un outil à la fois écologique et économique? Je suppose qu'il y a les deux dimensions pour l'eau.
Alors, dire que l'eau n'est pas un bien marchand, c'est affirmer que 100% de la facture d'eau revient à l'eau. elle n'est pas redistribuée auprès des actionnaires, notamment. Hein. Donc, nous avons un budget qui est composé exclusivement des recettes des factures d'eau, qu'elles soient des ménages, de tous les acteurs, hein, les collectivités, tous les grands comptes, les entreprises, etc., qui nous permet donc de pouvoir doubler notre capacité d'investissement dans les années à venir, afin de pouvoir à la fois renouveler toutes nos canalisations, on a 3200 km de canalisation d'eau, de pouvoir s'engager dans un plan de fuite hein, qui est très offensif, que nous avons d'ailleurs commencé à la fin des années 2023, et de pouvoir aussi poursuivre dans une vers la transition écologique pour trouver tous les moyens de modifier les usages, modifier les comportements, etc.
Alors, au cœur du fonctionnement de cette régie, il y a une nouvelle tarification donc, qui a été présentée là, dans la dernière newsletter qu'on a reçue de Bordeaux Métropole. Vous indiquez donc, dans cette newsletter que l'idée de ce nouveau système est de se mettre en accord sur le territoire afin que chacun puisse mesurer la distinction entre consommation essentielle et confort et de permettre aux plus sobres d'être récompensés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette nouvelle tarification atteint cet objectif?
Alors, nous souhaitons qu'elle atteigne ses objectifs. Hein. C'est une tarification qui est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2024. Donc, on va nous donner un peu de temps pour évaluer ce que ça a pu donner. Jusqu'à maintenant, nous étions sur une tarification progressive, justement, hein, qui était à différencier, effectivement, l'eau essentielle, l'eau de confort. Cependant, nous avons, il faut le savoir, sur la métropole de Bordeaux, 40% de nos usagers de l'eau ne reçoivent pas de facture d'eau parce qu'ils vivent dans un habitat collectif. Or, ces 40% d'usagers, finalement, payaient le tarif le plus élevé parce que, comme ce sont leurs bailleurs qui recevaient la facture, c'est des factures sur des gros mètres cubes. Et ensuite, ces bailleurs donc divisent par le nombre de logements, ce qui n'est pas vraiment équitable parce qu'on ne sait pas combien il y a de personnes derrière un compteur déjà, quand il y en a un. Mais là, derrière un logement, encore moins. Donc, on a fait un bilan de cette tarification progressive qui nous a amené, au bout de beaucoup de travaux, hein, de réflexions, à choisir un seul et même tarif pour tous. Donc, nous avons un seul tarif de l'eau à 1,51 € le mètre cube. Et nous avons par contre baissé considérablement la part fixe que tout le monde paye, qui était de 60 €. Eh bien, nous l'avons baissé à 40 €. Et nous avons aussi fortement diminué l'abonnement, enfin le frais d'accès au service, que nous avons ramené à 15 €. Donc, on a opéré ces changements en visant à ce que cette tarification soit la plus juste, soit la plus lisible aussi, qu'elle soit aussi sociale, puisque parallèlement à cela, nous avons et nous sommes en train de travailler avec la CAF pour pouvoir verser de façon automatique, sans qu'ils le demandent, de façon automatique, un chèque eau à tous les ménages qui rempliront un certain nombre de critères que nous avons arrêtés selon la composition de la famille et selon les revenus du ménage. Nous savons qu'il y a, si vous voulez, un seuil qu'on appelle la précarité hydrique qui est de 3% d'un budget. Et donc, nous avons arrêté un certain nombre de critères qui permettra à la CAF de nous dire ce sont tous ces foyers qui doivent recevoir un chèque eau d'un montant de 10, 20 euros, 30 euros selon les cas.
Est-ce qu'à consommation égale, je prends un exemple plus caricatural, mais le tarif sera différent pour un foyer de 5 personnes économes et pour un couple sans enfant avec piscine?
En fait, ce que je disais auparavant, c'est que les personnes qui étaient dans un habitat collectif, c'est 40% d'habitants de la métropole, ceux-ci donc avaient le tarif le plus fort, plus élevé même qu'une famille qui vivait dans une maison individuelle avec piscine. Donc aujourd'hui, ce que ça va changer, c'est que la part fixe, elle est la même pour tout le monde. Elle a été considérablement baissée pour mettre tout le monde un peu sur un même pied d'égalité. Et ensuite, c'est une part variable. La part variable, c'est celle qui va varier effectivement selon la consommation d'eau de chacun des ménages. Donc plus on consomme, plus cette part variable va être élevée et donc plus le prix, la facture sera élevée. Donc là, on est effectivement sur la recherche d'une tarification la plus juste. Hein, c'est vraiment à la consommation d'eau que la facture va être effectivement se faire. Hein, et en même temps, de donner des indicateurs à tous les ménages pour dire quel est le volume de mètres cubes d'eau qu'il est raisonnable de consommer lorsqu'on est parent, lorsqu'on est une personne, deux personnes, quatre personnes, six personnes. Donc, sur cette facture, on aura effectivement la possibilité de comparer sa facture d'eau en fonction de sa consommation d'eau avec ce qu'il est raisonnable de consommer. Et tout le monde sera facturé sur un seul et même tarif qui est donc 1,51 €.
Vous n'avez donc pas choisi la solution qu'a choisi la ville de Lyon, qui a choisi de faire, enfin la métropole plutôt, Grand Lyon, de faire les premiers mètres cubes gratuits afin d'assurer donc le droit à l'eau pour tous et puis de faire payer un peu plus cher, bien sûr, les mètres cubes au-dessus du 12e.
Alors, ce qui nous différencie de Lyon, hein, puisque nous sommes très en relation et en coordination étroite, et nous sommes dans un même réseau d'ailleurs, le réseau France Eau Publique, hein, nous avons fait ce choix après avoir expérimenté depuis 10 ans la tarification progressive à Bordeaux Métropole. C'est en fait, si vous voulez, le bilan que nous faisons de cette tarification progressive, que j'ai pu d'ailleurs présenter hein, au CESE à Paris, au Conseil économique et social et environnemental, qui effectivement, lui aussi, à la demande de la Première ministre, a dû faire un travail de réflexion et d'analyse sur le bien fondé de cette tarification progressive, et convenez comme nous qu'elle ne peut pas s'appliquer partout, parce que nous ne sommes pas tous égaux sur les mêmes territoires, nous n'avons pas la même composition sociologique, nous n'avons pas, par exemple, sur le territoire, quand je vous dis 40%, c'est énorme, hein, c'est presque la moitié, des métropolitains qui n'ont pas de facture d'eau parce qu'ils n'ont pas de compteur individuel. Et on n'est pas aujourd'hui